Bonsoir à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par deux petites informations plus administratives, entre guillemets. La première, certains d'entre vous, mais pas tous, ont reçu un mail de ma part disant que la conférence de Dominique Holvout était téléchargeable via Radio UMH. Alors, j'ai eu beaucoup de mails qui me sont revenus parce qu'apparemment, dans l'encodage de vos adresses e-mail, il y a eu dû y avoir des erreurs. Quand c'est écrit manuellement, parfois, on ne sait pas lire exactement. J'allais vous proposer, si vous souhaitez recevoir ce type d'informations, de peut-être réenvoyer chacun séparément votre adresse e-mail à l'extension UMH dont j'ai mis l'adresse mail ici dans l'encart rouge, de façon à ce qu'on ait vraiment l'orthographe précise de vos adresses, en indiquant simplement pas à pas, il n'y a besoin de mettre rien d'autre, ça peut être fait en deux secondes. Ça permet de vérifier si on a vos bonnes adresses e-mail, et comme ça on peut vous prévenir. Tous ceux qui le souhaitent, en tout cas. Donc voilà. Alors en fait, comme je l'avais expliqué la fois passée, on propose cette année de mettre entre chaque conférence la conférence du conférencier précédent en ligne via le site de Radio UMH. Je sais que tout le monde, y compris moi, on a eu des problèmes d'accès ce week-end. Apparemment, c'est un problème de serveur et de disque dur qui s'est planté. C'est ce que je viens d'apprendre maintenant. Autre chose, c'est que le week-end, je crois que le service informatique fait souvent ses mises au point. Donc, le week-end passé, j'avais également des problèmes pour accéder au site. Il faut peut-être réessayer le lundi ou le mardi quand c'est comme ça. De toute façon, aujourd'hui, je sais qu'ils travaillent pour remettre le système informatique en ordre. Et à partir de demain, vous pourrez télécharger. J'ai demandé que la conférence de Dominique Holvout soit téléchargeable encore une bonne semaine, en même temps que celle-ci, puisque Mme Kusnirek accepte que la conférence soit mise en ligne également, que celle-ci sera mise en même temps jusqu'à la conférence prochaine en ligne. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Dans un moteur de recherche, vous tapez Radio UMH et vous accédez au site de Radio UMH. Là, vous avez sur la bande de gauche une petite colonne dans laquelle vous verrez marqué « Émission ». Et dans émission, vous verrez marqué conférence. Et en cliquant sur conférence, vous trouverez les conférences pas à pas que vous pouvez télécharger. Est-ce que ça va pour tout le monde de ce point de vue-là ? Alors, si jamais ça ne fonctionnait pas du tout, n'hésitez pas à me contacter, parce que là, j'essayerai de comprendre ce qui se passe, mais en principe, ça devrait être mis en ordre. Voilà, alors je vais peut-être commencer par reprendre les points essentiels de la conférence de Dominique Holvout. Dominique Holvout, qui, il y a 15 jours, nous avait retracé, je vais dire, le décor général dans lequel on travaille depuis 3 ans, en rappelant que Lacan était un lecteur de Freud, mais qu'il avait poussé son travail au-delà de Freud, et que c'est ce qui, au fond, avait permis une certaine pérennité à la psychanalyse, et que le travail de Lacan lui-même était repris, retranscrit, rédigé par Jacques-Alain Miller, qui est également psychanalyste de l'école de la cause freudienne. Il a pointé le fait que les séminaires 3 et 4 s'articulaient, en ce sens que, au fond, dans le séminaire 3, Lacan articule le mécanisme de la forclusion à partir du sujet d'un signifiant primordial. Signifiant primordial qu'il nomme le nom du père. Dans le séminaire 4, qui est en partie repris dans un texte des écrits « Questions préliminaires à tout traitement de la psychose », la question de la forclusion et du développement de la métaphore paternelle est également reprise. Il a dit également que les séminaires 1 et 2, on avait lu le séminaire 1 l'an dernier, s'articulaient l'un à l'autre en finalement dépliant les champs du symbolique et de l'imaginaire. Alors, à partir de cette clinique du regard et de cette bipartition symbolique-imaginaire, Lacan s'attache, nous dit Dominique Holvout, à extraire ce qu'il appelle la structure permanente des phénomènes observables. Cette structure, elle est supportée par la fonction du signifiant, elle est du registre symbolique, et on parle d'une clinique du signifiant. De ce côté-là, on trouve au fond l'instance du sujet, un sujet qui est représenté donc par un signifiant pour un autre signifiant. C'est effectivement à partir du moment où le sujet est nommé qu'il prend sa place de sujet. Il a fait une rapide mise en lien et un rapide rappel avec l'articulation, donc au fait qu'à partir de ce moment-là, le sujet peut dire « qui suis-je », qu'il peut se mettre en lien à son histoire, s'articuler au langage, et il nous a reparlé brièvement du grand autre en rappelant le schéma qui est là, le schéma Z ou schéma L appelé également. Du côté du registre imaginaire, nous dit Dominique Holvoet, on observe les comportements. C'est tout ce qui relève de l'instance du moi, tel Narcisse regardant son reflet dans l'eau, sa propre image, tout comme celle de son semblable, son rival. Et ce rival, dans le schéma ici, on le retrouve sous la lettre de petit a prime, le petit autre. Alors, le séminaire 4 est plutôt centré sur la question de la mère comme mère désirante. Et donc, c'est à partir de la question de lorsque l'enfant vient au monde, au fond, il est dépossédé d'une certaine façon des signifiants. Cela appelle des compensations symboliques, par exemple à travers le rôle de la fonction du nom du père, ou des compensations qu'un sujet peut trouver plus au niveau imaginaire lorsque, justement, cette fonction du nom du père fait défaut. Et donc, la métaphore paternelle a pu être écrite, comme je l'ai remise ici au tableau. Le nom du père vient barrer le désir de la mère, ou est sur le désir de la mère, et indique quelque chose du désir de la mère comme énigme pour l'enfant. Alors, Dominique Holvoet a dit, au fond, quand on parle de la relation d'objet, de quel objet s'agit-il ? Ça avait été sa question très rapidement. Et il en a relevé trois points principaux. Il dit, au fond, l'objet, c'est tout investissement libidinal de quelque chose qui se distingue du sujet comme tel. Ça peut être une partie de son corps, un autre, un objet externe, la mère en tant que sein maternel, par exemple. L'objet, ça peut aussi être l'enfant en tant qu'il est objet de satisfaction pour sa mère, dévorante, comme le dit la mère dévorante, qu'il représente, et donc cet enfant représente le phallus pour elle. Mais l'objet, dit Lacan dans ce séminaire, c'est surtout l'objet en tant qu'il manque, en tant qu'il est définitivement perdu. Et donc ce séminaire, c'est l'étude des terribles conséquences, nous dit Dominique Holvoet, de la sexualité féminine pour tout sujet. Et au fond, Lacan va s'attacher à montrer que contrairement à une certaine orientation à cette époque-là, l'objet n'est pas un objet comblant, mais qu'il est perdu, et il va le développer par après autour des thèmes de l'objet phobique ou l'objet fétiche comme exemple. Alors, on va donc s'intéresser à la question de la castration. Cette question, au fond, se déplie en trois étapes. D'une part, l'objet du désir, le phallus imaginaire, le phallus qu'on s'imagine perdre. D'autre part, le phallus en tant qu'il manque à partir de la problématique de la castration féminine. Et enfin, ce qui rend compte du manque, c'est le symbolique, puisqu'une fois que c'est nommé, ça peut disparaître. Lacan disait, le symbolique, c'est le meurtre de la chose. Alors, Dominique Holvoet pointera aussi trois modes de l'objet chez Freud. Le sujet est aliéné à l'objet en tant qu'il est retrouvé, mais jamais premier. Donc ce n'est jamais l'objet perdu n'est jamais retrouvé en tant que tel. Et donc on est dans un jeu de répétition impossible. C'est aussi le rapport à la réalité ou au principe de plaisir. Par exemple, l'objet peut être halluciné et produire une satisfaction réelle. Et c'est aussi la relation au partenaire chez Freud dans l'étude des relations prégénitales et du stade du miroir. Je pense que Dominique Holvoet en était à peu près resté là à la fin de sa conférence. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Monique Kusnirek, qui est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et analyste de l'école. Vous pratiquez en tant que psychanalyste en privé à Braine-le-Comte et à Bruxelles, mais vous êtes aussi directrice du CPCT Bruxelles avec Christine Le Boulanger, si je ne me trompe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CPCT à Bruxelles, CPCT, ça veut dire Centre psychanalytique de consultation et de traitement. Et au fond, c'est un lieu de consultation dont, au fond, le moteur est de pouvoir accueillir tout qui désire rencontrer un psychanalyste et de rendre, finalement, cette rencontre accessible à tout un chacun. Une des autres fonctions des CPCT est également la formation des analystes, mais donc c'est au fond prendre place dans la... Enfin, oui, je vous laisserai peut-être le compléter, effectivement, c'est de prendre une place dans la cité. Et vous êtes également à l'ACF, si je ne me trompe, responsable de l'atelier de psychanalyse appliquée. Et sûrement encore beaucoup d'autres choses que vous pourriez détailler. Alors, vous allez nous parler ce soir des séances 4 à 5 sous le titre « La dialectique de la frustration ». Merci.
L'atelier de psychanalyse appliquée ne dépend pas de l'ACF. C'est plutôt articulé à la section clinique. Alors, donc, je disais que l'atelier de psychanalyse appliquée n'est pas articulé à l'ACF, mais plutôt à la section clinique. Et que le CPCT participe certainement à la formation des analystes, mais en tant que clinicien, parce que la formation de l'analyste, un analyste est formé par son analyse, pas par l'expérience clinique. Mais ça, le CPCT, la section clinique et l'expérience et le contrôle participent certainement à la formation du clinicien qui est un analyste. Alors, je vais, moi surtout, m'intéresser, dans ce qui a été annoncé, je vais m'intéresser plus particulièrement aux pages 66 à 75 du quatrième chapitre qui s'intitule « La dialectique de la frustration ». Alors, vous allez l'entendre, il y a des choses que je vais reprendre que Anne Cauzin a rappelées et que dont Dominique Holvoud vous avait parlé. Alors, mais avant d'arriver à ces pages 66 à 75, il me faut poser un certain nombre de préambules que moi-même j'ai dû me poser en relisant ces cinq chapitres pour préparer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, et ça fait la difficulté de la lecture de ce séminaire, je vais vous dire après ce qui fait la difficulté. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que Lacan, tout au long de son enseignement, s'est interrogé sur l'articulation qu'il y a entre la jouissance et le signifiant. Sur l'articulation qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Et Jacques Alain Miner a isolé dans l'ensemble de l'enseignement de Lacan six paradigmes de la jouissance, c'est-à-dire six modes d'articulation entre la jouissance et le signifiant, entre la satisfaction, notamment celle qui est incluse dans la relation d'objet, et le fait que nous soyons des êtres parlants. Alors, ce qui fait parfois la difficulté de lecture dans ce séminaire, c'est que dans ce séminaire-ci, je vais vous expliquer ce que c'est, on a affaire au deuxième paradigme, mais en même temps, à certains moments, au premier, et à un recouvrement du deuxième par le premier, ou à une reprise du premier par le deuxième. Je vais vous expliquer ce que c'est que ces paradigmes. Et d'ailleurs, entre chacun de ces paradigmes, il y a toujours, au moment de passage, un certain recouvrement normal. Alors, le premier paradigme. Il y a un texte de référence concernant ce premier paradigme que l'on trouve dans les écrits et qui date de 53, alors que ce séminaire est de 56-57. Ce texte de référence, c'est « Fonction et champ de la parole et du langage », ce qu'on appelle aussi le rapport de Rome, parce que ça a été prononcé à Rome. Alors, dans ce premier paradigme, la satisfaction, la jouissance et le symbolique, le signifiant sont tout à fait indépendants l'un de l'autre. C'est très facile à comprendre. Il suffit de reprendre ce schéma-là. Ça, c'est le schéma typique du premier paradigme. Dans ce premier paradigme, ce qui est de l'ordre de la jouissance, de la satisfaction, ça circule sur l'axe imaginaire, qu'on appelle imaginaire. Alors cet axe imaginaire, c'est là où on mettra le moi, l'enfant, le moi, et son image dans le miroir. C'est imaginaire parce que l'enfant, quand il est tout petit et qu'il n'a pas encore la maîtrise de sa motricité, tout à coup, à partir d'un certain moment, il regarde son image unifiée dans le miroir et il jubile. C'est une satisfaction de l'ordre de l'image, c'est imaginaire. Alors sur cet axe, on mettra aussi le moi et son alter ego, le semblable, celui auquel je m'identifie d'une manière imaginaire en miroir. Et l'exemple princeps de cela, c'est celui que Lacan prend chez Saint-Augustin, où l'enfant pâlit de jalousie devant son puiné qui est au sein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes de satisfaction et de jouissance? Ça veut dire que l'autre, mon semblable, mon petit frère, m'a volé ma satisfaction. Il jouit à ma place. Et au coup prochain, quand je lui reprendrai le jouet, c'est moi qui vais jouir à sa place. C'est-à-dire que sur cet axe imaginaire, la jouissance, la satisfaction circule. Il y a un transfert de libido entre moi et mon semblable. Et il y a un transfert de libido sans perte ni profit. Ça se fait en vase clos. Quand c'est pas l'un qui jouit, c'est l'autre. Et quand c'est pas l'autre, c'est l'un. Alors, donc la jouissance à ce moment-là, pour Lacan, en 53, et on retrouve ce schéma repris dans le séminaire 4, la jouissance à ce moment-là circule sur l'axe imaginaire, et sur cet axe, elle fait obstacle à tout ce qui se déroule sur l'axe symbolique. Et sur l'axe symbolique, entre le sujet et son autre, l'autre qui est à ce moment-là un lieu de la parole, et qui est aussi un autre sujet, l'autre est un autre sujet, eh bien, ce qui se déroule entre le sujet et son autre, un autre sujet, c'est un procès symbolique de reconnaissance du désir. Et la jouissance qui circule de bric à brac de l'ordre imaginaire fait obstacle à ce procès symbolique. C'est-à-dire que quand on est en analyse selon ce paradigme-là, on attend que tout le bric à brac imaginaire soit vidé pour enfin arriver à ce procès de reconnaissance. À ce procès de reconnaissance où on reçoit, où chacun reçoit sa juste place symbolique. Par exemple, celui qui dira à une femme « Tu es ma femme » recevra sous forme inversée le message de la place qu'il occupe, à savoir « Si je te dis « Tu es ma femme », cela signifie que ma place est d'être ton homme. » Reconnaissance, procès de reconnaissance symbolique. Donc ça, c'est le premier paradigme, et on le retrouve à certains moments, par exemple, Lacan, dans le séminaire 4, dans le cinquième chapitre, je crois, parle de l'autre comme lieu de la parole. Ça, c'est une formule qui relève du premier paradigme. Bon. Alors, évidemment, la frustration que Lacan va reprendre va complexifier dans le séminaire 4, elle circule sur cet axe imaginaire. Quand c'est l'autre qui jouit à ma place, il me cause un dommage. Il me cause un dommage. Alors, les trois modes, mettons d'abord ici la frustration est donc un manque imaginaire, ça se déroule sur l'axe imaginaire, et c'est le manque d'un objet réel. Quand l'autre prend le sein à ma place, il se satisfait réellement du sein à ma place. C'est le sein, c'est pas un objet, c'est pas un substitut, c'est pas... Bon. Alors, mais on va revenir à ça parce que tout ça va se complexifier dans le séminaire 4. Alors, le deuxième paradigme... Attendez un peu que je vois si je vous ai tout dit. Autre chose qu'il faut retenir, c'est que sur cette relation imaginaire, on a deux termes. C'est duel. Et c'est une réécriture du stade du miroir. Alors, deuxième paradigme. Le deuxième paradigme, c'est ce que Jacques Alain Miller nomme la signifiantisation ou la significantisation de la jouissance. Là, il y a tout à fait une articulation entre la satisfaction et le signifiant. Non seulement il y a une articulation, mais il y a une opération du symbolique sur la jouissance. Une opération qui prend sous sa coupe la jouissance et qui produit, je vais essayer de vous montrer ça, une annulation de la jouissance. C'est dans cet ordre-là que Lacan peut dire dans le séminaire 4 que ce qui est central dans la relation d'objet, c'est le manque d'objet. Mais le manque d'objet, c'est un manque de satisfaction. Alors, cette opération du symbolique qui prend sous sa coupe la jouissance et qui l'annule, d'une certaine façon en tout cas, elle devient possible dès lors que Lacan appréhende le symbolique autrement. Autrement que comme un lieu de la parole. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Bon, pour le moment, ce n'est pas grave, je vais voir. Alors, le texte des écrits, dans les écrits, écrits par le séminaire, mais le texte des écrits qui est le premier, qui est princeps et qui permet ce deuxième paradigme, c'est le texte « L'instance de la lettre » qui, lui, date, le texte qui donne la matrice structurale pour comprendre ça, c'est l'instance de la lettre qui date de 57. Le séminaire 4 est de 56-57. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'instance de la lettre? Donc, jusque-là, le grand autre, c'était le lieu de la parole. Ce lieu où on rencontrait un autre sujet dans un procès de reconnaissance du désir. À partir de l'instance de la lettre, l'autre, le symbolique, est appréhendé à partir de la structure du langage. C'est plus le lieu seulement de la parole, c'est la structure du langage. Et la structure du langage, c'est celle... Bon, on va mettre ça ici. Il n'y a pas un bazar pour effacer, là? Ah ben voilà, ça c'est parfait. Donc, pas trop haut, sinon je ne peux plus la voir. Alors, la structure du langage, c'est celle qui articule le signifiant au signifié. Le signifiant, c'est ce qui engendre un effet de signifié ou de signification. Et le signifiant, c'est au moins une articulation signifiante, c'est pas un seul signifiant. Il faut un signifiant qui s'articule à un autre pour produire un effet de signification ou un signifiant qui s'articule à un autre de manière métonymique ou un signifiant qui en remplace un autre sous la forme métaphorique pour produire une signification. Alors, ce que vous trouvez ici, c'est un peu complexe, mais vous allez voir, ça va prendre de la chair. Ce que vous avez ici, pour produire de la signification, c'est une articulation de deux signifiants. C'est tout à fait différent de l'articulation entre deux sujets. Quand on a une articulation entre deux sujets, on ne pense pas à la production de signification. Quand on a une articulation entre deux signifiants, on obtient une signification. C'est tout simple, ça. Si vous voulez saisir ça concrètement, par exemple, si je parle de la table, ça ne veut rien dire. Si j'articule la table à une série d'autres signifiants, voilà, sur la table, j'ai déposé mes notes, je vois le séminaire 4, on pense alors, la référence, c'est, voilà, les conférences pas à pas. Par contre, sur la table, il y a, je sais pas, un cadavre qu'un médecin est occupé à disséquer, on pense à un roman policier. C'est extrêmement différent, c'est-à-dire que la table va produire une signification dans la mesure où elle s'articule à un autre signifiant, et la signification peut être variable en fonction de l'articulation des signifiants. Alors, je vais vous dire maintenant le squelette de la chose que vous allez. Que c'est impossible de comprendre ça comme ça tout de suite, mais vous allez garder ça en mémoire. C'est que. Grâce à cette opération-là, disons celle-ci ici, grâce à cette opération-là, qu'on peut retraduire d'ailleurs autrement en termes de métaphore paternelle, qu'a rappelé Anne Cauzin, vous mettez le don du père sur le désir de la mère, et on écrit ça encore plus simple que cela, j'y reviendrai tout à l'heure, quand vous remplacez le père par la mère au moment de l'Œdipe, quand le père fait son entrée avec l'Œdipe et qui vient remplacer le signifiant du désir de la mère, ce que vous obtenez comme signification, c'est l'effet de castration. Ça s'appelle moi-fille. C'est comme ça que Lacan l'écrit. C'est une signification de la castration. Eh bien, tout ce que vous retrouvez ici sur l'axe imaginaire comme jouissance qui circule en vase clos, là, dans le bric-à-brac imaginaire, à partir de l'instance de la lettre, Lacan va ramener toute cette jouissance-là au niveau, du moins quand on a la formule oedipienne, au niveau de la castration. C'est une jouissance marquée par la castration et là marquée par le manque. Tandis que de l'autre côté, ça circulait sans perte ni profit. Bon. Alors. Cette époque du deuxième paradigme de Lacan, c'est une très grande époque. C'est une très grande époque. Quand on ne connaît pas bien Lacan et qu'on le nomme, c'est souvent à cette époque-là qu'on se réfère. C'est d'ailleurs l'époque où il y a une production énorme de textes. Vous avez l'instance de la lettre, mais vous avez juste après la signification du phallus, la question préliminaire, la direction de la cure. Tout ça relève de la même époque. Et toute une série de séminaires aussi, jusqu'au du 4, disons, au 9, sauf le 7 qui fait exception, tous ces séminaires-là parlent de la significantisation de la jouissance. Alors, cette période, évidemment, autre chose que c'est cette période-là de la significantisation de la jouissance, correspond chez Lacan à un certain abord du réel. À cette époque, le réel qui intéresse la psychanalyse, selon Lacan, ce n'est pas la réalité brute, première, ce n'est pas la réalité d'avant l'émergence du signifiant, du symbolique. Ce qui intéresse la psychanalyse, c'est ce qui, dans le réel, se trouve déjà pris ou est prêt à être pris par le symbolique. Ce qui intéresse le réel, qui intéresse la psychanalyse à cette époque-là, pour Lacan, c'est le réel qui se trouve pris donc dans le symbolique, c'est plus exactement le symbolique dans le réel. Et la science d'ailleurs à laquelle... je vais vous dire ça, d'abord autre chose. S'intéresser au symbolique dans le réel, ou à ce qui peut être déjà pris dans le symbolique, ou ce qui est prêt à être pris dans le symbolique, et qui se trouve dans le réel, ça c'est une démarche d'ordre scientifique. Et c'est simple de le comprendre. Par exemple, vous faites ça. Ça tombe. Ça reste pas, ça flotte pas. Ça tombe. C'est notre réalité sur la Terre. Un objet ne flotte pas, il tombe. Les scientifiques prennent ça et ils disent « loi de la pesanteur ». C'est du réel, c'est ce à quoi nous avons affaire, mais le scientifique s'intéresse à ce qui peut relever d'une loi, à ce qui peut être formulé de manière mathématique. Il s'intéresse à ça dans le réel, c'est-à-dire à ce qui peut être pris par le symbolique dans le réel. Eh bien, au fond, Lacan, à ce moment-là, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et la science à laquelle, évidemment, il se réfère à cette époque de son enseignement, la science pilote des sciences humaines à cette époque, c'est évidemment la linguistique structurale. Alors, la réalité psychique, chez l'être parlant, n'est donc pas la réalité brute. Ça s'est dit de 36 façons différentes dans les trois premiers chapitres du séminaire 4. Ça revient tout le temps, ça. C'est pas la réalité brute. Bien au contraire, un événement, une réalité, peut prendre différentes significations selon l'articulation signifiante qui la produit, dans laquelle elle est prise. Par exemple, un événement sera pas traumatique de la même façon pour tout le monde, sera peut-être même pas traumatique pour tout le monde. Ça dépend de la prise signifiante dans laquelle il est pris et qui va produire une certaine signification différente pour les différentes personnes. Donc, c'est donc dans ce cadre-là de la prise du réel par le symbolique, de la significantisation de la satisfaction, c'est dans ce cadre-là que Lacan critique certains tenants de la relation d'objet, pour lesquels la relation à l'objet serait au contraire inscrite là de tout temps, de manière brute, primitive, avant l'émergence même du symbolique. Avant que ça ne commence à parler, il y aurait une réalité première. Certes, cette réalité, on concède qu'elle est d'abord là sous forme de préforme, de prématuration, mais elle n'aurait, sauf accident de développement, qu'à se déployer au cours du développement. Et l'accès au symbolique et aux fonctions cognitives ferait lui-même partie de ce développement, à partir d'une réalité première qui existerait sous forme de prématuration et qui se déploierait jusqu'à la fin du développement. Et il suffirait, pour le dire vite, d'un bon dosage dans la première réalité de la relation à l'objet, d'un bon dosage de la mère, de la présence et de l'absence de la mère, pour qu'au bout du processus, au fond, si tout se passe bien, sans accident, le petit garçon qui est devenu un homme rencontre d'une manière harmonieuse son objet, la femme. Alors évidemment, c'est bien sûr pas ce que pense Lacan. Je me répète, donc dès lors qu'il aborde la relation à l'objet, la relation de l'enfant à ses objets, à sa mère, il l'aborde comme déjà prise dans les raies du symbolique, c'est ce qui introduit d'emblée, c'est une conséquence immédiate, ce qui introduit d'emblée une dénaturalisation, une disharmonie dans la relation à l'objet. On retrouve ça à toutes les lignes des trois premiers chapitres. C'est-à-dire que la disharmonie que l'on peut c'est-à-dire que la disharmonie n'est pas le résultat d'un accident du développement. Elle est là d'emblée. Elle est là du fait que le symbolique vient perturber d'emblée ce qui serait de l'ordre de la nature. Alors ça, c'est vraiment ce que montre l'expérience analytique et le texte de Freud. Par exemple, Freud, il montre que rien dans le développement de l'enfant, il montre dans le développement de l'enfant que les rails, il dit que rien ne montre dans le développement de l'enfant que les rails sont déjà construits qui conduisent d'un sexe à l'autre. Au contraire, il y a d'abord chez Freud une certaine fixation libidinale à la mère, fixation qui se trouve refoulée au cours de la période de latence. Et ce qui est refoulé, comme dit Freud, ce sont des représentants de la représentation, pas la réalité. C'est-à-dire que ce sont des signifiants qui sont refoulés. Et puis cela revient à la sortie de la période de latence, et ça revient au fond perturber la relation que le jeune homme peut alors nouer avec une fille. Chez la femme, l'homme recherche la mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonie préétablie dès le départ entre l'homme et la femme que l'on retrouverait dans la première relation mère-enfant. Tout le monde dans l'expérience analytique que l'incidence du signifiant vient perturber la relation à la femme chez l'homme et que chez une femme, du fait du refoulement de la fixation libidinale à la mère, il recherche une mère chez une femme, par exemple. Toute la phase phallique, tout ce que Freud dit à propos de la phase phallique va dans le même sens. Par exemple, à propos du complexe d'Œdipe et du complexe de castration. Il dit que le petit garçon sort du complexe d'Œdipe parce qu'il craint la castration. Il craint de perdre son phallus. Tandis que la petite fille y entre parce qu'elle veut obtenir de son père un substitut au phallus. Et si tout se passe... veut obtenir de son père un phallus sous forme d'enfant, si tout se passe bien, elle acceptera, etc. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'un et l'autre, et c'est comme ça par la suite aussi, ça veut dire que l'un et l'autre, au fond, ne sont pas... le garçon ne s'intéresse pas à la fille et la fille au garçon, mais ils s'intéressent tous les deux à un tiers terme, le phallus. Pas de relation harmonieuse, préétablie entre l'homme et la femme, l'expérience analytique montre le contraire. Lacan ira même jusqu'à dire, mais ça relève d'un paradigme ultérieur, c'est pas à cette époque qu'il dit ça, à cette époque il insiste sur la disharmonie introduite par le symbolique qui fait qu'un homme ne rencontre pas la femme. Plus tard il dira dans un autre paradigme qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre l'homme et la femme, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle évidemment, mais il n'y a pas le programme, le savoir qui permettrait à l'un de se relationner à l'autre. Donc le réel qui intéresse la psychanalyse, c'est celui qui est déjà pris ou prêt à être pris dans les règles du symbolique. Et c'est le symbolique qui introduit du manque dans le réel. Là, je vais vous dire un mot, là tout de suite, de la forme d'objet qui s'appelle la privation. C'est tout à fait... à mettre en rapport avec le fait que c'est le symbolique qui introduit du manque dans le réel. Donc c'est pas compliqué à comprendre. Dans le réel, en principe, rien ne manque. Tout est là dans le réel. Pour comprendre que quelque chose puisse manquer dans le réel, pour appréhender un manque dans le réel, il faut le symbolique. Il suffit pour s'introduire à cela de penser à l'exemple qui est lacanien, que Lacan rappelle, de la bibliothèque. Lorsqu'on va dans une bibliothèque, les livres sont rangés par tome, et dans chaque tome, ils sont rangés par ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, ABC, etc., c'est bien sûr un ordre symbolique. Alors, admettons que nous cherchions le séminaire 4 de Lacan dans la bibliothèque. Nous allons chercher à la lettre dans le rayon sciences humaines, psychanalyse, et à la lettre L, puisque c'est un livre de Lacan. S'il ne s'y trouve pas, il manque à sa place. Peut-on dire qu'il manque dans le réel? On ne peut dire qu'il manque dans le réel que parce qu'il manque à sa place, indexé de la lettre L. S'il n'y avait pas la lettre L, on ne pourrait pas le dire. Donc il manque à sa place, mais sa place, elle n'est pas réelle. C'est une place toute symbolique, c'est une place indexée par une lettre. Donc Lacan dira, la privation, c'est le manque réel, mais d'un objet symbolique. l'objet qui est indexé, qui est représenté par sa place, elle, ce n'est qu'un objet symbolique. Il manque réellement, mais à sa place symbolique. C'est un objet indexé d'une lettre qu'on appréhende à partir de sa place symbolique. Objet symbolique. C'est cette catégorie de la privation, c'est ce que Lacan appelle la privation. Donc dans le réel, c'est un trou, il manque à sa place. Ici, on avait affaire à un dommage avec la frustration. Donc cette privation, cette catégorie de la privation, du manque réel d'un objet symbolique, c'est la catégorie qui vaut pour parler du manque phallique de la fille, à condition d'en parler en dehors du sujet fille. C'est pas ce que le sujet fille peut ressentir à l'occasion. Ça, c'est autre chose, on y viendra par la suite. Donc, la privation, c'est la catégorie qui convient pour parler du manque phallique de la fille, en ceci que si elle manque du phallus, ce n'est pas qu'elle manque de l'organe pénien. Anatomiquement, une fille, c'est complet. Si c'est bien constitué, c'est complet. Il n'y a pas de problème. Elle manque du phallus parce qu'à la place symbolique où il devrait être, il ne s'y trouve pas. Si elle manque du phallus, c'est parce que celui-ci manque à sa place symbolique, là où il pourrait être. Cela fait du phallus, pas l'organe. Cela fait du phallus un objet symbolique. Une place indexée, parce que Lacan écrira, pas le petit moins phi de la signification de la castration, mais grand phi, insignifiant. L'index. L'index qui indique que là, il y a quelque chose qui manque. Donc, il faut le symbolique pour dire que quelque chose manque à sa place dans le réel, pour appréhender la catégorie de la privation. Il faut les lettres de l'alphabet pour dire qu'un livre manque à sa place. Il faut l'index phallique, c'est-à-dire le phallus comme signifiant et pas comme organe, pour dire que la fille est privée. Sinon, on ne peut pas dire qu'elle est privée, elle est complète. Alors, tout ça, jusque-là, ça va. Oui. Mais il faut encore, pour appréhender cette catégorie de la privation, il faut quand même supposer, si on veut parler de privation, si on suppose que quelqu'un puisse appréhender cette catégorie, il faut encore qu'il ait à sa disposition le symbolique. Alors là, quand se pose la question, à la page 56, comment un sujet est-il amené à symboliser le réel? D'où ça lui vient? Comment est-ce possible? Je peux vous dire où ça se trouve à la page 56. J'en étais moi-même très étonnée. C'est dans le deuxième paragraphe, après Jones. Donc il se pose la question, comment un sujet est-il amené à symboliser le réel? D'où ça lui vient? Réponse, dans la phrase suivante, nous verrons, dit-il, que ce n'est pas lui le sujet qui introduit l'ordre symbolique. C'est-à-dire, je comprends comme ça, que l'ordre symbolique est déjà là. Il préexiste au sujet, mais comment peut-il lui préexister? Alors, Lacan continue. Il continue à apporter des réponses, mais il les donne sous forme de questions. Donc, on va voir. Il ajoute donc, toujours en réponse, comment le symbolique, le sujet, comment le symbolique se trouve-t-il introduit? Il pose comme question, comment la frustration introduit-elle l'ordre symbolique? Et il ajoute, nous allons voir ça à la leçon suivante. Donc, on va aller voir à la leçon suivante si le symbolique introduit bien, si la frustration introduit bien au symbolique ou non, et si oui, comment elle le fait. C'est
D'accord ?
Alors, donc, passons à la dialectique de la frustration.
Alors, page 66. Au point 2. Lacan, il dit, on a tort de ne pas partir de la frustration qui est le vrai centre quand il s'agit de situer les relations primitives de l'enfant. Donc les toutes premières relations là. Encore faut-il, de cette notion centrale qu'est la frustration, en avoir une notion juste. Alors, dans cette dialectique de la frustration, il distingue trois temps. Premier temps. Alors là, je vais vous faire des autres schémas. Frustration, c'est à la page donc 66. Hein, ça commence là, au point 2. Il prend les deux termes en présence. Donc, on va ici remonter là. Donc il prend les deux termes en présence dans cette relation primitive de l'enfant. L'enfant est l'objet réel qui le satisfait, le saint. Là il dit, donc vraiment je lis mot à mot quasi, là il dit il n'est pas nécessaire à ce moment-là qu'il y ait distinction du moi et du non-moi, de l'enfant et du saint. Ça n'est pas nécessaire pour que cet objet saint exerce déjà son influence. La relation, dit-il, est directe, le saint est réel. Donc on va mettre ici réel. Le saint est réel. Alors, un peu plus... Il est un peu plus tard, rien plus tard, dès lors que l'enfant commence à jouer, à jeter les objets, à faire disparaître les objets, puis à les réclamer, et puis à les reprendre, et puis à les refaire disparaître, enfin, le jeu de la bobine et du fordage chez Freud. À partir de ce moment-là, dit-il, on peut distinguer le sein qui est l'objet de la mère. C'est-à-dire qu'il distingue le sein de la mère. Et au niveau du sein, de la mère, il dit que le sein, c'est l'objet réel, tandis que la mère, c'est une mère symbolique. Alors pourquoi dit-il symbolique ? Il dit symbolique parce que la mère va et vient. Elle vient de la même façon que la bobine est jetée, perdue, retrouvée, réclamée, rejetée, perdue, retrouvée, réclamée, etc. Et bien de la même façon, la mère va et vient. Elle vient quand l'enfant l'appelle par une petite vocalise et elle s'en va quand l'enfant la rejette repue par une petite vocalise aussi. C'est-à-dire que la mère est régulée comme un métronome. Et cette régulation de présence-absence est déjà un minimum d'amorce symbolique. Donc, dès ce premier temps de la frustration, nous avons au fond un triangle où on a déjà l'apparition d'un premier terme symbolique. Alors, Lacan dit ceci qui me paraît très important, c'est... au bas de la page 67, avant-dernier paragraphe. Bien entendu, cette tension de l'appel, donc elle est absente, présente, est loin de nous donner dès l'abord tout l'ordre symbolique. Mais elle nous en montre l'amorce. Elle nous permet ainsi de dégager un élément distinct de la relation d'objet réel. Il critique donc les post-freudiens qui disent qu'au début, il n'y a que l'objet réel. Hein? Donc, elle nous permet donc cette scansion de l'appel de dégager un élément distinct de la relation d'objet réel. C'est ce qui offre au sujet la possibilité de raccorder la relation réelle à une relation symbolique. D'accord ? Ça, c'est le temps 1. Temps 2, page 68. le paragraphe qui commence là, un peu plus, 5 lignes après le début de la page. Donc, ce chapitre est consacré à la dialectique de la frustration. Lacan dit que c'est plus, à proprement parler, plus, c'est surtout à partir du deuxième temps que commence ce qu'il appelle la dialectique de la frustration. Avant, il y a juste cette petite amorce symbolique de présence-absence. Dans ce temps 2, la relation de l'enfant à son objet réel, le sein, dit-il, va se complexifier. Quand est-ce que ça se complexifie? Eh bien, lorsque la mère ne répond plus à l'appel. L'enfant l'appelait, elle venait. L'enfant la rejetait, elle partait. Ça va se complexifier quand elle ne répond plus à l'appel. C'est-à-dire que jusque-là, par exemple, quand elle veut... qu'elle veut faire en sorte que son enfant ne pleure plus pendant la nuit pour avoir le sein ou le biberon, quoi. Bon, alors... Mais jusque-là, dans le premier temps, elle était très bien régulée, comme un métronome, ce qui fait qu'elle était symbolique, puisqu'elle était régulée. Et voilà qu'à partir de ce moment-là, quand elle ne répond plus à l'appel, au fond, elle n'en fait plus qu'à sa tête. Elle sort dès lors, dit Lacan, de son statut symbolique, de sa régulation symbolique, pour devenir celle qui décide. C'est elle qui décide quand elle vient. Elle devient toute puissante. Comme dit Lacan, elle devient réelle. On a la mère qui devient réelle. Avant, c'était le sein, l'objet de satisfaction qui était réel. Maintenant, c'est la mère. Alors, que la mère devienne réelle, ça a des conséquences sur l'objet de satisfaction. Sur le statut de l'objet qui va changer sur le statut de l'objet sain qui va changer avant donc la satisfaction de l'objet réel du sain ne dépendait pas de la mère puisqu'elle venait quand l'enfant l'appelait, elle apparaissait puis elle disparaissait. Maintenant la satisfaction que l'enfant ressent dépend du bon vouloir de la mère. C'est elle qui décide de donner ou de ne pas donner. C'est-à-dire qu'au premier temps, l'objet sain qui était un objet de satisfaction réelle, il prend maintenant la valeur du don. Il se vide de sa matérialité en quelque sorte. Et il devient, puisqu'il prend la valeur du don, de ce que la mère veut bien donner tantôt, et pas tout à l'heure, il devient un signe d'amour de la mère. Il devient, alors qu'il était dans le premier temps un objet de satisfaction réelle, il devient un objet de satisfaction symbolique. Alors, donc on est dans la dialectique de la frustration. Si au premier temps il y avait frustration, la frustration était celle, je ne sais plus où j'ai mis le bazar, était celle qui venait du refus de l'objet de satisfaction réelle de sein. Donc du refus du sein. La frustration venait dans le premier temps du refus du sein, si elle était présente. Dans le second temps, la frustration est une frustration d'amour. C'est un refus du don. Et donc, entre ce temps 1 et ce temps 2, ce qu'on montre, c'est comment l'objet réel de satisfaction, le sein, devient un objet symbolique, de satisfaction symbolique, le don d'amour. Comment le réel de l'objet, finalement, se trouve résorbé dans la satisfaction symbolique, dans le symbolique. Et c'est par cette voie de l'amour, de l'objet, du don d'amour du deuxième temps, que l'enfant va s'ouvrir au troisième temps. Troisième temps. Et ça, c'est, il faut lire la première phrase qui est terrible, je trouve. Ça se trouve à la page 70. Lacan dit, pour commencer ce troisième temps, « Posons maintenant la question à partir d'un tout autre point de départ. » Le tout autre point de départ, c'est que juste là, jusque-là, on s'intéressait à la frustration de l'enfant, à la frustration du sein réel, premier temps, et à la frustration d'amour, deuxième temps. Maintenant, on va s'intéresser à la frustration du côté de la mère. C'est ça l'autre point de départ. La mère, donc à cette page 70, Lacan commente ce qu'a dit Freud. La mère, donc, est aussi une femme. Et comme femme, elle a au nombre de ses manques d'objets essentiels le phallus. Le phallus, qu'elle n'appréhende pas nécessairement selon la catégorie de la privation, mais qu'elle peut tout à fait elle-même appréhender comme un dommage, comme une frustration, comme une revendication. Elle en veut. Elle n'en a pas et elle en veut. Eh bien, cela a son rapport le plus étroit à sa relation à l'enfant. Pour une raison simple que vous avez déjà compris, évidemment, c'est que si la femme trouve dans l'enfant une satisfaction, c'est précisément pour autant, ça je cite Lacan, c'est très précisément pour autant qu'elle trouve en lui, l'enfant, quelque chose qui calme en elle, la mère, quelque chose qui calme en elle, plus ou moins bien, son besoin de phallus qui le sature. C'est-à-dire que l'enfant réel, et là c'est le troisième temps qu'on va écrire ici, alors la phrase exacte que j'ai reprise à Lacan, l'enfant en tant que réel, prend pour la mère la fonction symbolique de son besoin imaginaire de phallus. La mère a un manque imaginaire, le phallus. C'est un manque imaginaire. D'accord ? Elle peut le vivre sur le mode de la frustration comme un dommage qui lui a été causé et qu'il faudrait réparer. Mais elle cherche à ce dommage imaginaire un substitut. Dès lors qu'on parle de substitut, on a affaire à du symbolique. Donc, l'objet, ici, phallus qu'elle recherche, est un substitut symbolique. Et la mère, c'est la mère frustrée ou la mère désirante. Enfin, on verra plus tard. Plus loin. Donc, l'enfant, pour combler son inassouvissement, cherche... La mère, pour combler son inassouvissement, cherche chez l'enfant un substitut à ce qui lui manque. Troisième temps, où le terme symbolique, là, est le phallus. Le terme symbolique, dans le premier temps, était la mère régulée. Dans le deuxième temps, c'était le don d'amour. Et ici, c'est le phallus. Mais pris côté mère. C'est la mère qui cherche ça chez l'enfant. On envisage maintenant la frustration côté mère. D'accord ? Alors, donc on envisageait ça côté mère. Revenons maintenant à l'enfant, avec une mère qui cherche le phallus chez lui. L'enfant, pendant un certain temps, peut se croire aimé pour lui-même. Lacan pose la question, comment va-t-il se rendre compte qu'il n'est peut-être pas aimé pour lui-même, mais pour le substitut, pour l'image de ce qu'il représente, de ce qui manque à sa mère, à savoir le phallus qui lui manque. Quand va-t-il se rendre compte de ça? Il peut croire qu'elle l'aime pour lui-même. Il y a ce qui se passe du côté de sa mère qui cherche un remplaçant au phallus, mais lui, quand va-t-il s'en rendre compte qu'il est trompé au fond? Sur la marchandise, quand même. Comment va-t-il se rendre compte qu'il ne suffit pas à boucher le trou?
Comment va-t-il découvrir que le vrai partenaire de sa mère en tant que femme, c'est son manque? Manque de phallus. Je vous renvoie au fameux article qu'a écrit Jacques Alamiller dans la lettre mensuelle 128 et 129. Je pense que Dominique avait parlé de ça. Ce sont des articles extrêmement précieux sur cette partie du séminaire. Eh bien, dit Lacan, donc quand va-t-il se rendre compte? Eh bien, dit Lacan, ce qui sera décisif, vous trouvez ça à la page à la fois 69 et à la page 71, ce qui sera décisif dans cette appréhension donc par l'enfant, que sa mère recherche ce qui lui manque, le phallus, ce qui sera décisif, ce sont les carences, les déceptions qui vont toucher la toute-puissance maternelle. Donc, vous souvenez-vous, il est toujours au deuxième temps, l'enfant, en quelque sorte, hein, avec une mère tout-puissante, qui donne ou qui donne pas, d'accord? Eh bien, quand sa mère sera atteinte dans sa toute-puissance, alors il va saisir quelque chose. Il va saisir qu'elle manque, qu'elle est insatisfaite, qu'elle n'est jamais satisfaite, qu'il n'y a rien qui l'ait satisfait, etc. C'est-à-dire qu'elle, si elle n'est pas satisfaite, si elle manque, elle est atteinte dans sa toute-puissance. Et l'enfant peut alors se rendre compte qu'elle est, comme dit Lacan, désirante tout court. C'est l'expression de Lacan. Il lui manque quelque chose. Elle est désirante tout court, entamée dans sa toute-puissance. Et alors l'enfant se trouve dans une situation extrêmement instable. Parce que lorsqu'il s'aperçoit que sa mère est désirante, qu'elle manque, et que son désir ne peut être assouvi, qu'elle reste inassouvie. Il faut lire, Lacan le dit lui-même, Jacques Alamiller le rappelle, il faut lire en regard avec cette dialectique de la frustration, le chapitre 11 du même bouquin, là, le phallus et la mère inassouvie. Donc, l'enfant est alors dans une situation donc très instable, parce que quand il se rend compte que sa mère manque, qu'elle est assouvie, qu'elle reste inassouvie, alors il ne sait pas, il n'est plus du tout assuré de ce qu'elle va trouver pour se mettre sous la dent pour satisfaire son inassouvissement. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. C'est l'angoisse de dévoration. D'où l'image du bouquin. Alors, pour illustrer ça, et là, on est au troisième temps de la dialectique de la frustration. Donc, hein, où l'enfant se rend compte donc que ce qui manque à sa mère, c'est ce que nous appelons le phallus symbolique. Et que par rapport à ça, elle est inassouvie. Donc vous voyez à chaque fois comment le symbolique dans ces trois temps se trouve introduit dans cette relation primitive. Alors donc Lacan donne un exemple pour illustrer ça, c'est celui de la petite Anglaise. Et ça commence à la page 72. Alors, dans la page 72, vous allez voir, on retrouve chez la petite fille les trois temps de cette dialectique de la frustration, plus je dirais un double quatrième temps, d'un autre registre. Premier temps, premier paragraphe de la page 72. C'est une petite fille qui a 2 ans et 5 mois. Donc la petite fille, s'étant aperçue que les garçons ont un fait pipi, comme dit le petit Hans, se met à fonctionner en position de rivalité. Elle fait tout pour faire comme les petits garçons. Elle est séparée de sa mère, non pas seulement à cause de la guerre, mais parce que la mère a perdu son mari en début de guerre. Mais la mère vient voir sa fille, la présence et l'absence est régulière. Premier temps. Et la maman se livre, quand elle vient, à de petits jeux d'approche. Elle vient sur la pointe des pieds, disent-ils son arrivée. Joue à cache-cache, quoi. Bref, on voit sa fonction de mère symbolique. C'est vraiment le premier temps. Tout va donc très bien. L'enfant a les objets réels quand elle veut, quand la mère n'est pas là. Et quand la mère est là, celle-ci joue son rôle de mère symbolique. Cette petite fille a donc fait la découverte que les garçons ont fait pipi, veut les imiter et aussi le leur manipuler. Alors, ce que dit Lacan dans la suite de ce chapitre-là, c'est que la petite fille qui a 2 ans, 5 mois a affaire au premier temps de la frustration. C'est une petite fille qui va faire une phobie. Une petite fille qui, dans un quatrième temps, va faire une phobie. Donc, elle a découvert la différence des sexes, mais elle a affaire à ce premier temps de la frustration. Sa mère a une mère symbolique, a des objets de satisfaction réels, et par ailleurs, a une mère symbolique bien régulée. Elle a découvert la différence des sexes, mais ce n'est pas du tout ça qui provoque la phobie. Tout se passe bien à ce moment-là pour elle. Pas de phobie. Même si elle a découvert la différence des sexes. Deuxième temps, au milieu de la page 73. La mère a cessé de venir parce qu'elle est tombée malade et qu'il a fallu l'opérer. La mère n'est plus la mère symbolique, la mère a manqué. Mais rien ne se passe, pas de phobie. Elle revient, elle rejoue avec l'enfant, il ne se passe encore rien. Donc dans ce deuxième temps, les commentaires ultérieurs, en dessous de Lacan, c'est donc la mère a cessé de venir parce qu'elle est tombée malade, il a fallu l'opérer, elle cesse d'être bien régulée symboliquement, l'enfant est triste parce que sa mère n'est plus là pour lui donner ce qui apparaît sous les espèces de l'amour, mais il n'y a pas de phobie à ce moment-là. Deuxième temps, donc pas de phobie. Troisième temps, la mère revient appuyée sur une canne. Elle revient faible. Elle n'a plus ni la même présence, ni la même gaieté, ni les mêmes relations hebdomadaires d'approche et d'éloignement. À ce moment-là, donc, au troisième temps, très éloignée de la découverte première de la différence des sexes, c'est là qu'apparaît la phobie. La petite fille, une nuit, se réveille, prise d'une frayeur folle, elle se réveille. Un chien est là qui veut la mordre. Angoisse de dévoration. Après ce rêve, ce cauchemar, la phobie s'installe et la peur des chiens. Alors, donc, quand est-ce que la phobie devient nécessaire? Elle devient nécessaire à partir du moment où la petite fille découvre que sa maman est affaiblie, manquante, fatiguée, insatisfaite. Pas comblable, inassouvie, pas contente. Elle ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée, angoisse de dévoration, et elle développe une phobie. Et au fond, moi, la phobie, je la mettrais comme ça. Ouais, évidemment, je vais faire ça comme ça ici. Donc, c'est ça. Donc, on a l'enfant réel, la mère désirante, et non comblable, qui prend son enfant comme phallus, comme substitut de son manque. L'enfant, devant cette bouche béante, devant cette nouvelle situation, doit se protéger. Et il développe une phobie, la phobie du chien. Le chien lui permet de ne plus être face à cette grande gueule ouverte de la mère, et il se remparte, plutôt que d'avoir affaire directement à l'angoisse de tomber dans le grand trou, il se remparte derrière la peur du chien, qui introduit une certaine limite, du coup, parce que ça topologise les lieux. Il sait maintenant où il peut aller, où il ne peut pas aller, par quel détour il doit prendre, enfin bon. Et ça... Bon, on pourrait dire d'autres choses encore. Donc, je dirais donc que je mettrai en quatrième terme le chien. Je le mets en quatrième terme parce que c'est une solution par rapport à cette triade imaginaire que Jacques Alain Miller. Donc, ce qui est important de vous souvenir, c'est que dans le premier schéma, là, A', premier paradigme,
c'était une dualité imaginaire. Ici, du fait chaque fois de l'introduction d'un troisième terme, on a une triade imaginaire. Une triade imaginaire qui trouve une solution pour la petite fille, symptomatique et tout à fait inconfortable, mais qui est quand même une solution, la phobie du chien. Lacan dira dans d'autres textes que le chien vient en quelque sorte comme un signifiant à la place du nom du père. D'accord. Alors, l'histoire de la petite fille ne se termine pas là. L'observation se poursuit et la phobie disparaît. La phobie disparaît au moment où la mère rencontre un homme. Elle reprend sa fille à la maison. La petite fille a affaire à ses frères qui ne sont pas très rigolos et qui la chatouillent du côté de la différence des sexes. Mais enfin, peu importe, la phobie disparaît. La phobie disparaît parce que là vient en quatrième terme non plus le chien, mais le père. Donc le chien n'est plus nécessaire. C'est le père qui s'occupe de la mère. Plus besoin de chien pour poser des limites dans l'espace. Alors, avec ce quatrième terme, le père, on a affaire au troisième manque d'objet, qui est la castration, où le manque, je vais l'expliquer, est symbolique, tandis que l'objet est imaginaire. Pourquoi le manque est-il symbolique avec la castration? C'est que il est symbolique parce que avec il est symbolique parce que le père, à cette fin de l'Œdipe, introduit la loi, l'interdit de l'inceste. Il dit en quelque sorte à son enfant: tu n'es pas ce qui manque à ta mère. Ce qui manque à ta mère, c'est le phallus, et tu n'es pas ce phallus. C'est-à-dire que le quatrième terme vient porter sur la triade imaginaire où l'enfant pouvait s'imaginer être le phallus de la mère ou craindre de l'être, etc. Donc le père là vient porter un interdit sur la triade imaginaire. Et c'est un interdit qui porte sur un objet imaginaire, parce que bien sûr que l'enfant n'est pas réellement le phallus de sa mère. D'ailleurs, ça n'existe pas, le phallus de sa mère. C'est un trou. Parce que l'enfant s'identifie, s'imagine être le phallus de sa mère. Tu n'es pas la loi, ce que tu imagines être, le phallus de ta mère. Tu ne corresponds pas à cette identification imaginaire. Et c'est une loi. Alors, l'introduction de cette loi correspond par ailleurs, c'est une interdiction, mais c'est aussi une promesse. C'est aussi une promesse puisque c'est une promesse de l'investiture phallique pour le garçon et de l'enfant comme substitut au phallus pour plus tard pour la fille. Mais une promesse, bien sûr, à condition de suivre la loi, d'où la dette symbolique. À condition de renoncer à s'imaginer être ce qui manque à la mère. Et c'est alors que ce qui était vécu comme un dommage imaginaire est subjectivé sur le mode de ce que Lacan appelle la dette symbolique. Tu auras à condition que. Et c'est au fond ce qui se trouve réécrit. Donc je vous le disais tout à l'heure, je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, avec la métaphore paternelle. Le nom du père comme signifiant, et là on voit bien la formule de la métaphore qui vient à la place du désir de la mère comme signifiant, produit la signification phallique, c'est-à-dire la signification qui comporte pour un sujet: je ne suis pas ce qui manque à ma mère, je ne suis pas celui, je ne peux pas m'identifier à ça, je ne suis pas à la hauteur de ça au fond. Je ne suis pas à la hauteur de ça. Une signification de castration. Alors, cette solution par le père, évidemment, ce n'est qu'une solution. Et ce que Lacan montre dans le chapitre suivant, c'est qu'il y a d'autres solutions à la triade imaginaire. Des solutions comme le fétichisme, par exemple. Au lieu d'avoir cette loi symbolique qui vient apporter une solution à la triade imaginaire, l'enfant de trompé qu'il est par sa mère peut devenir trompeur. Il peut s'identifier à sa mère qui cherche le phallus. Il sera fétichiste, comme dit Lacan dans le chapitre suivant. Il peut s'identifier au phallus. Enfin, il y a toute une série de solutions possibles qui font l'économie de la loi du père. Mais enfin, ce qui me paraît, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça parce que je ne l'ai pas préparé, mais ce qui me paraît intéressant de noter pour conclure, c'est que donc la question que se posait Lacan, avant d'introduire à cette dialectique de la frustration, c'est comment peut-on symboliser le réel. Alors on voit bien que l'objet symbolique qui est isolé à la fin du processus de la dialectique de la frustration, c'est le phallus. Mais il y a deux phallus. Il y a le phallus que promet le père en investiture pour le garçon, et puis il y a le phallus qui manque à la mère. Et au fond, ce dont on se rend compte dans cette dialectique de la frustration, et c'est pour ça que, reprenant Miller, Dominique Hollywood disait l'autre jour que c'est un séminaire sur la sexualité féminine, ou sur l'enfant en prise avec la sexualité féminine, au fond, on se rend compte que le phallus qui compte dans ses relations primitives et qui introduit le symbolique dans le réel pour l'enfant, c'est le phallus maternel, c'est-à-dire celui qui manque, qui n'existe pas. Mais ça n'est pas nécessaire que quelque chose existe pour que ça opère dans le symbolique. Ça existe réellement pour que ça soit opérant dans le symbolique. Voilà.
C'est pas facile de poser des questions, je trouve, après votre conférence, d'une part parce que vous avez déplié et articulé finalement ces trois types de manque d'objets, privation, frustration, castration, d'une façon qui, en tout cas moi personnellement, me semblait vraiment claire. Il y a un paragraphe que vous avez souligné, que moi j'avais repris dans le séminaire, que je trouvais vraiment très très complexe dans sa compréhension, qui était au fond comment ce qui dans le réel est déjà pris par le symbolique et vous dites c'est le symbolique dans le réel. Donc ça c'était moi quelque chose qui était un peu compliqué pour moi. Mais en même temps, voilà, le fait de voir déplier au fond, comme vous l'avez fait, permet de voir les étapes. Alors, je me demandais peut-être simplement, à partir de ça, qu'est-ce qui se passe pour un enfant dont on pourrait dire qu'il n'a pas ou peu eu accès au symbolique, par exemple. Bon, et donc je pense à tout ce qui est du registre de la psychose et comment au fond s'articulent ces trois.
C'est quand même une question. Je ne sais pas comment s'articulent ces trois pour la psychose. Une question vaste.
Oui.
Mais. Un enfant, c'est pas simple quand sa mère le phallicise, mais quand même c'est mieux ça que de considérer que c'est un déchet qui vaut rien du tout, quoi, ou de ne pas même se rendre compte qu'elle est enceinte. La dimension du désir de la mère, c'est une dimension importante. C'est une dimension, quand l'enfant n'a affaire qu'à ça, il est en impasse. Il faut qu'il trouve une solution, mais c'est une dimension névrotisante en fait, de bon augure. Quand il n'y a pas cette dimension, quand la mère ne phallicise pas son enfant, c'est quand même beaucoup plus mal barré pour un enfant. C'est-à-dire que le phallus qui manque à la mère est introduit dans la dialectique de la frustration par le désir de la mère. Par son désir insatiable. Qui peut bien sûr être occupé par autre chose, qui peut, le père peut s'occuper de ça et la mère peut laisser une place au père qui s'occupe de ça. Mais il y a déjà cette dimension du désir de la mère qui est opérant et qui est important qu'il soit là. Un enfant ne grandit pas bien s'il n'y a pas ce désir de la mère. L'enfant reste, mais ça ce sont des textes ultérieurs, l'enfant reste l'objet qui cause le désir de la mère. Mais il y a le père qui s'occupe de sa femme et des objets de sa femme. Oui.
Voilà, vous avez...
En lisant ça tout à l'heure, j'ai été frappé de la toute première page. Ça, c'est, je ne sais pas à quel point la conclusion rejoint.
Oui.
Notamment à la toute première page.
La page de quoi ?
Page 59. La toute première dans la question de la chose.
Oui, oui.
Quand il dit, ça m'a frappé ça tout à l'heure, c'est le Hilaire Préjou, le véritable scandale de la psychanalyse, c'est pas de mettre au premier plan la sexualité. Personne ne s'en offusque. Par contre, dit-il, le véritable scandale, eh bien, c'est de savoir que la preuve de l'objet sexuel présente une difficulté essentielle qui est d'ordre interne.
Oui.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cette difficulté essentielle qui est d'ordre interne et qui est là des scandales, même si on en parle carrément, poliment, ça fait toujours scandale, c'est justement de mettre au premier plan tout ça, le désir de la mère, d'une certaine façon.
Ce que Lacan dira aussi, attends. L'approche de l'objet sexuel présente une difficulté essentielle qui est d'ordre interne. Bon, il y a le désir de la mère, mais il y a aussi le fait que il n'y a pas de rapport sexuel. Mais ça, c'est un autre paradigme.
Voilà.
Je vais revenir à votre question du sens. On a fait. Le deuxième paradigme, on a le réel. Et dans le réel, on s'intéresse à ce qui est symbolique. Ou à ce qui est symbolisable. Donc, d'où l'intérêt du désir de la mère et, qui introduit le manque phallique, etc. Alors, dans le dernier paradigme de Lacan, c'est beaucoup plus loin, mais c'est intéressant parce que c'est une radicalisation de la chose. Il s'intéresse plus au symbolique dans le réel, mais il prend le symbolique et il s'intéresse au réel. Alors, ça veut dire ceci, c'est que il radicalise les choses parce que le réel, dit-il, c'est un trou dans le savoir. Le symbolique, ça reste du savoir. Et le réel, c'est un trou dans le savoir. Et le trou dans le savoir, c'est par exemple qu'il n'y a pas de programme qui dirait depuis toujours comment un homme se relationne à une femme et inversement. C'est l'envers du truc et c'est la même chose radicalisée en fait. Ceci ici, ça introduisait une disharmonie dans le réel. Et ceci, ça, c'est une façon de dire il y a un trou de savoir dans le symbolique et c'est ça le réel. Et tout le symbolique, au fond, tout ce qu'on met là autour, ce n'est que du semblant. Linguistique, science, théorie, oui. Et tout ça, ce n'est que du semblant.
C'est ce à quoi j'allais venir, puisqu'on est ici aussi à l'université, et dans un lieu où justement les sciences ont une place, c'est qu'on voit bien dans le premier schéma qu'au fond, que ce qui du réel peut être pris dans le symbolique n'est jamais la totalité, donc il y a toujours quelque chose qui échappe, et dans le deuxième temps, eh bien, c'est le dire, mais justement sur le mode inverse, qu'il y a toujours quelque chose qui ne sera pas... voilà. C'est ce qui fait aussi qu'il y aura toujours des scientifiques, finalement.
Oui, il y a les psychanalystes avec leur théorie aussi. Hein, tout ça, c'est une façon de donner sens au truc. La religion, c'est une façon de donner sens à la vie. Faire un métier d'artiste, c'est une façon de donner sens à la vie. De s'arranger avec le réel, évidemment. donner sens à quelque chose, il faut y croire. Lire avec une femme, c'est croire aux symptômes qu'elle représente pour vous. Le père, le fameux nom du père et la logique de l'Oedipe, là, pour Lacan, la fin de son enseignement, ce n'est qu'un symptôme parmi d'autres. C'est une façon d'y croire, mais c'est important. C'est important parce que quand on reste comme ça dans le réel, avec cette masse traumatisante que ça peut représenter, on ne peut pas vivre. Donc il faut s'inscrire dans un discours. Et on peut s'inscrire dans un discours sur le mode du nom du père. Mais alors, on est un névrosé qui souffre de la castration. Et je ne suis pas à la hauteur, et je ne peux pas, et j'ai encore raté, etc. Tout ça, c'est la névrose. Il y a d'autres modes d'inscription dans la vie que la névrose. Et ce que dit Lacan à la fin de son enseignement, psychotique ou névrosé, on est dire tous, au fond. Nom du père comme symptôme ou autonomisation comme Joyce, se nomme lui-même, qui s'autonome, au fond, tout ça, c'est une façon de faire avec, et il faut bien trouver une façon de faire avec, et il y en a qui conviennent mieux que d'autres, évidemment.
Vous avez des questions ?
Oui, c'est ça.
Hein? Par contre, il comprend bien Lacan insiste sur l'autonomie du signifiant. Alors, la question, assez simple, peut-être un peu conne, c'est jusqu'où va cette indépendance du signifiant ? Parce que si elle est totale, évidemment, on est dans l'insignifiance. Hein? Et si j'entends par des Chinois à côté de moi, je suis évidemment ouvert au signifiant, pas au signifié, je comprends bien ce qu'on dit. Mm-hmm. Alors, deuxième chose à propos de Freud, peut-être, c'est que quand il parle de représentation, il oppose la représentation. Je crois que vous avez fait allusion, et la représentation de nous. Il est possible qu'on puisse établir une équivalence, mais je ne sais pas, entre la représentation de nous et le signifiant. Et nous savons aussi que pour Freud, dans la première topique, la représentation de nous fait référence au préconscient, tandis que la représentation de choses est de l'ordre de l'inconscient, et pour Freud, je crois, la représentation de choses est tout à fait hors langage. Alors, est-ce que ça pose un problème au cours ou la carrière, le fait que finalement le signifiant se retrouve plutôt du côté du préconscient et pas du supra-inconscient. Et alors, la troisième question, si vous voulez, excusez-moi de vous rappeler. La troisième question sera celle-ci. En fait, parle du représentant psychique de la pulsion, il parle évidemment des représentations, mais aussi de la fête. Parce que le fait de parler tout le temps de signifiant, ça ne vient pas finalement mettre en parenthèse les affects.
Alors, c'est vrai que pour Saussure, c'est réciproque.
Ce que dit Lacan entre le signifiant et le signifié, il reprend ça à sa manière, évidemment. C'est pas une indépendance, c'est que le signifiant, l'articulation signifiante, produit la signification. Le signifiant dépend de l'articulation signifiante. D'accord ? Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est comme ça. Alors, vous vous posiez la question de l'insignifiance. Lacan a écrit l'écriture des discours qui est notamment... je ne vais pas vous développer ça. Mais enfin bon, l'écriture des discours, ce que dit Lacan, c'est qu'au fond, on peut être pris dans un discours qui introduit non seulement une articulation signifiante, mais également un signifié qui est le sujet et un rapport à la jouissance, disons. Ce que dit Lacan, c'est que il n'y a pas, voilà, non seulement il n'y a pas de rapport sexuel, on trouve ça dans le séminaire 20, mais il n'y a pas de rapport entre les mots. C'est-à-dire qu'on n'est pas assuré du lien entre le signifiant et le signifié. On en est juste assuré quand on fait partie d'un discours. Quand on fait partie d'un discours. Quand on adopte tous le même discours, alors on tombe tous sur les mêmes significations. Et c'est vrai, je peux vous dire un certain nombre de mots, au fond, que vous pouvez entendre, parce que vous faites partie de ce discours un peu comme moi. Peut-être pas avec les mêmes, tout à fait les mêmes références, mais enfin, quand on fait partie d'un même discours, eh bien, alors on sait ensemble de quoi l'on parle. Si on va dans un autre discours, dans un tout autre discours que le nôtre, on ne sait pas du tout ce que les gens veulent dire quand ils utilisent les mots qu'ils disent. Donc, mais le discours, c'est une articulation signifiante avec ses significations, mais pas seulement au niveau du signifié et du sens, mais au niveau aussi d'un certain mode de jouissance. Alors ça, c'était, je crois, la première question. Alors, attendez, la deuxième, il faut reprendre le texte de Freud. Je ne peux pas répondre ça comme ça. La troisième, attendez, j'avais pensé. Alors, il est vrai que dans... c'est une question très complexe. Il est vrai que dans ce paradigme qui est celui de la significantisation, de la prise du réel par le symbolique, la pulsion devient finalement très symbolisée et le corps, même s'il a encore sa place, a beaucoup moins de place dans ce paradigme-là qu'il n'en avait chez Freud lui-même. C'est-à-dire que ça, c'est le deuxième paradigme, c'est l'époque du séminaire 4. Lacan va, dans la suite de son enseignement, donner beaucoup plus d'importance au corps. Et il va même montrer comment le signifiant peut entailler le corps, en fait. Peut laisser sa, comment la langue peut laisser sa trace dans le corps. Mais ce n'est plus... une opération, c'est-à-dire que dans la suite de l'enseignement, la valeur qui est mise ici dans ce deuxième paradigme, c'est que la pulsion ou la libido freudienne, ça devient le désir, le manque à être. Tandis que pour jouir, il faut avoir un corps. Et dans la suite de ce enseignement, l'accent sera beaucoup plus mis sur l'avoir un corps. Ce qui ne rend pas obsolète tout ça. Ce qui ne rend pas obsolète tout ça, parce que ça aussi, ça... ça aussi toute son incidence et toute sa pertinence clinique, mais il n'y a pas que ça dans la clinique, il y a aussi des phénomènes de corps. Voilà. Sauf que le corps dans la phobie est impliqué, par exemple. Il faut quand même... Et que l'angoisse de dévoration et que la pulsion dévorante est impliquée aussi. Mais le ressort est l'annulation par le symbolique de la jouissance. Ça, c'est le ressort structural de la chose ici. Mais la pulsion, il y a à faire aussi.
Une autre question ? Bon, mais je pense qu'on peut peut-être en... Ah oui, allez, pardon, allez-y.
Oui, c'est le mot qu'utilise Lacan, c'est « Je t'interdis d'être ce qui convient à ta mère ». Mais je te promets en retour l'investiture phallique. C'est dans ce mouvement-là de prise. C'est pas un dû réel. C'est le résultat d'un pacte, si vous voulez. C'est ça l'adecte symbolique. C'est le résultat d'un pacte.
Oui. Voilà, mais je pense qu'on peut en rester là pour ce soir. Merci beaucoup, Monique Kusnirek, et on se retrouve dans 15 jours, je pense, environ. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.